I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine, au micro de présentation John Linden, Joselle à la mise en onde assistée de Fred. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Le président Barack Obama a donc bouclé cette semaine sa visite à Cuba. Une visite historique puisque les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis 1961 et aucun président américain en exercice n'avait foulé le sol de la Havane depuis 1928. Au menu des entretiens durant cette visite figurait en bonne place la normalisation des rapports économiques et des relations entre les États-Unis et Cuba, mais aussi et surtout les questions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie. Dans cette édition de l'Amérique et vous, nous parlons donc de ce rétablissement graduel des relations entre les États-Unis et Cuba et surtout de l'intérêt qu'il a pour l'Afrique, si intérêt il y a, ou tout au moins des leçons qu'on peut en tirer du point de vue africain. Évidemment, nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3440. Alors, pour nous accompagner au cours de cette édition, nous avons depuis Yaoundé au Cameroun, Célestin Bédigui. Il est économiste et homme politique, vice-président de l'UNDP. Il vit entre Washington et Yaoundé. Célestin Bédigui, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Vaudot.
Merci bien de nous rejoindre sur cette émission. Donc, également invité dans cette édition... Jean-Jacques Kurlianski, oui, il est à Paris, chercheur à l'IRIS. Jean-Jacques, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, merci d'être avec nous aussi. Également à Paris, nous avons Geneviève Garicos, elle est présidente d'Amnesty International France. Geneviève, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Donc, on va commencer par Célestin Bédigui. Qu'est-ce que vous retenez comme leçon de ce rapprochement entre les États-Unis et Cuba?
Je pense que l'influence qu'a l'Amérique, ou tout au moins qu'ont les États-Unis sur les pays africains, notamment les pays africains francophones, veut que toute relation crispée entre cette grande puissance et notre pays tempère quelque peu les relations que les pays africains peuvent avoir vis-à-vis de cet autre pays-là. Et une décrispation qui intervient entre les États-Unis et Cuba va forcément se traduire par un réchauffement, ou tout au moins il y aura plus d'allant dans la relation entre Cuba et les nations africaines, les pays africains. Parce qu'il faut bien le dire, la visibilité de Cuba était supérieure à celle des autres pays d'Amérique latine depuis des décennies, notamment avec l'intervention de ces pays dans le conflit qui opposait à l'époque l'Angola et l'Afrique du Sud. Mmh. Elle s'est tempérée, elle s'est atténuée avec le temps au point où on se demandait où est-ce qu'on en était. Et je crois que, et je pense que c'est le point de vue également d'une large partie de l'opinion chez nous, que la décrispation qui est entre les États et qui intervient aujourd'hui parle haut entre les États-Unis et Cuba ouvre une allée beaucoup plus grande pour que les pays africains soient plus à l'aise pour normaliser ou renforcer leurs relations de coopération avec Cuba.
Voilà. Jean-Jacques, les deux pays ont réouvert leurs ambassades le 20 juillet dernier. Qu'est-ce que cela va concrètement apporter aux populations ?
Bon, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ce voyage en lui-même n'apporte rien de particulier. C'est un point d'étape. Depuis décembre 2014, officiellement, il y a un processus qui est en cours. Ce processus n'est pas terminé dans la mesure où les mesures d'embargo qui datent des années 60-62 sont renforcées ultérieurement dans les années 90, sont d'initiative parlementaire. Donc c'est le Congrès des États-Unis qui seul a la capacité de les lever.
Tout à fait. Alors,
le président, manifestement, a fait un choix. Il a considéré que les politiques de pression économique, voire à une certaine époque quasi militaire, je pense à l'opération manquée de la baie des cochons, avaient échoué, que la guerre froide était terminée, que Cuba, la perpétuation du blocus sur Cuba de l'embargo était une séquelle de la guerre froide. Il n'y a plus de guerre froide entre les États-Unis et le Vietnam, et Dieu sait s'il y avait beaucoup de contentieux liés à la guerre du Vietnam entre les deux pays. Bon, les relations ont été normalisées, il n'y en a pas non plus avec la Chine, donc il était un peu anormal que les relations avec Cuba fassent exception. Donc le président a choisi une autre voie, celle de la normalisation, sans pour autant mettre dans la poche ses conceptions, ses valeurs en matière de droits de l'homme qu'il a rappelées à l'occasion d'une conférence de presse et en recevant des dissidents.
Voilà, vous parlez de droits de l'homme, vous parlez d'embargo. Je vais m'adresser à Geneviève. Parmi les points de désaccord entre les États-Unis et Cuba, il y a donc le respect des droits de l'homme. Est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose va bouger dans les mois à venir ?
C'est difficile de faire des prévisions de cette nature. Ce qui est clair, c'est que l'embargo, quand même, est au centre, quand même, justement, de tous ces enjeux, puisque, notamment quand il y a eu le durcissement en 90, on a su aussi un durcissement des lois qui, justement, réprimaient que ce soit le fait qu'on parlait de l'embargo, qu'on ait, on ait des liens avec les États-Unis, qu'on puisse parler des États-Unis, etc. Donc, on voit bien que toute la répression et ce qui concerne toutes les limitations en termes de liberté d'expression, liberté d'association, liberté de manifester, sont en grande partie au moins justifiées par l'embargo. À l'heure actuelle, on n'a pas vu encore d'avancée. Et d'ailleurs, quand Raúl Castro a déclaré au président Obama « Si vous parlez de prisonniers d'opinion, donnez-moi la liste et on va les libérer », on sait très bien que c'est un peu une promesse en l'air. Parce que d'ailleurs, ce qu'on a constaté, nous, l'année dernière, par exemple, à notre connaissance, les 5 derniers prisonniers d'opinion que nous avions identifiés en tant que tels ont été libérés. En début d'année. Ensuite, il y a eu le graffeur Monsieur Sexto, qui avait été condamné, puisqu'il n'a pas été présenté devant un juge, mais qui avait été arrêté le 24 décembre 2014 pour avoir écrit Raoul et Fidel sur les derrières de deux cochons qu'il pensait libérer dans la rue. Il a passé 10 mois en prison. Donc on voit bien que la liberté d'expression n'est pas encore là. Ah. Et surtout, ce qu'on a constaté, c'est que depuis quelque temps, au lieu de justement de condamner les personnes et de les garder sur des longues périodes emprisonnées, eh bien c'est plutôt des arrestations de courte durée sans passer devant un juge. Et l'année dernière, il y a eu plus de 8000 arrestations de cette nature qui ont eu lieu. Donc on est loin, loin, loin de revenir à une normalisation en ce qui concerne la liberté d'expression.
Alors, un autre caillou dans la chaussure de cette normalisation, Geneviève, c'est la restitution ou non de la base navale de Guantanamo. Les États-Unis ont déjà dit que pour l'instant, ils n'étaient pas prêts. Est-ce que ça peut arriver un jour ?
Ah ben, c'est C'est-à-dire que, effectivement, nous, quand on parle du rapprochement entre les États-Unis et Cuba, du côté cubain, on est vraiment axé sur tout ce qui est liberté fondamentale et droits civils et politiques. Du côté américain, c'est la levée de l'embargo et la fermeture de Guantanamo. C'était une promesse du candidat Obama, et d'ailleurs le premier décret qu'il a pris quand il est arrivé au pouvoir, et récemment, il s'est encore engagé à fermer Guantanamo. Or, on ne sait pas dans quel contexte, puisque voilà, il faudrait libérer les personnes et non pas simplement les renvoyer dans des autres centres de détention, en tout cas pour celles qui sont libérables. Donc, on ne voit pas très bien comment, là encore, sans le Congrès, il va pouvoir avancer. Mais il est évident que c'est un des enjeux également de ce rapprochement. Et nous, on espère vivement que pour aller de l'avant dans les relations diplomatiques avec Cuba, ça va pouvoir faire avancer la question de la fermeture de Guantanamo.
Voilà, chers invités, vous restez avec nous. On va prendre une petite pause et on va prendre un auditeur au bout de la ligne.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Voilà, nous parlons du rapprochement des États-Unis et Cuba et l'intérêt que cela peut ou non apporter à l'Afrique. On va en Afrique, justement, retrouver Christian Djerabé. Bonsoir. Christian, bonsoir. Oui, qu'est-ce que vous dites ? Yeah, on vous écoute.
Oui, par rapport à l'approchement des États-Unis et de Cuba, je trouve quel intérêt l'Afrique n'a plus pas retrouvé dans ça. Oui, par rapport à l'élection de président Obama, les pays africains pensaient que Obama allait changer l'Afrique. Mais finalement, rien n'a été respecté par rapport à la leçon de la démocratie que Barack Obama a donnée aux pays africains. Non, je ne trouve aucun intérêt dans le rapprochement des États-Unis et de Cuba.
D'accord. Merci pour votre contribution. Je vais revenir à nos invités, Célestin Bédigui. Est-ce que vous pensez qu'une ouverture démocratique est possible à Cuba et qu'on pourrait, par exemple, assister à la création des partis politiques dans les mois, années à venir?
Je le pense sincèrement. Je pense que aujourd'hui, le Cuba est en train d'être gagné par ce que l'on pourrait appeler comme le vent, on appelait autrefois le vent est, et qu'il y a une disponibilité du régime cubain à accepter une ouverture démocratique absolument aux normes internationales. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Parce que si on juge les attitudes qui ont été jusque-là, qui ont jusque-là caractérisé le gouvernement cubain, elle pouvait être justifiée par le fait que ce pays avait le sentiment d'être toujours en ligne de mire de puissances occidentales, donc principalement les États-Unis, en tant qu'entité dont le pouvoir ou le régime devait être renversé. Maintenant que cela semble, ou cette menace semble être retirée de la table, de mon point de vue, j'ai le sentiment que les autorités de ces pays vont laisser les choses aller vers ce qui est désormais la norme internationale, c'est-à-dire la démocratie et la libre expression.
Jean-Jacques, c'est un groupe ici aux États-Unis qui continue de critiquer l'initiative de Barack Obama, non seulement de rapprocher les deux pays, mais surtout d'être allé à la Havane. Est-ce que ceux-là ont tort?
La réponse du président était très claire. Il a dit, les gouvernements des États-Unis qui se sont succédés depuis, les présidents qui se sont succédés depuis 1960 ont échoué en pratiquant une politique de la main dure à l'égard de Cuba. Moi, je propose une autre voie qui est d'ailleurs inspirée de, à la fin de la guerre froide, il y avait eu des accords qu'on appelait les accords de Helsinki. Il y avait une normalisation donc des relations entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest avec une troisième corbeille qui visait à accélérer et accentuer toutes sortes de relations dans la culture, le sport, à côté de l'économie. Donc c'est un petit peu la voie qu'a choisie Barack Obama en disant bon, on normalise nos relations avec Cuba, surtout en diplomatie, en économie, mais à côté, donc bon, on demande aux Cubains de s'ouvrir davantage, d'avoir des relations plus importantes en matière de culture, de religion, de sport, bon, avec d'ailleurs le relais du Vatican. Il ne faut pas oublier que 3 papes sont allés à Cuba et ont obtenu, en ce qui concerne la liberté religieuse, un élargissement des droits religieux, de liberté religieuse des Cubains. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher la voie, a dit le président Obama. Mais il est vrai aussi qu'aux États-Unis, la relation avec Cuba est aussi une affaire intérieure. Hein. Il ne faut pas oublier que dans les élections primaires, aux élections présidentielles, la Floride joue un rôle important et qu'en Floride, il y a beaucoup d'électeurs qui sont d'origine cubano-américaine. Mais bon, là aussi, le temps a passé. Les générations nouvelles sont sans doute beaucoup moins anti-castristes, anti-communistes que les générations qui ont émigré. C'est ce qui explique aussi peut-être le dégel d'aujourd'hui, le passage du temps.
Alors, Geneviève, une question. Jean-Jacques parlait du pape tout à l'heure. On a remarqué que lors de l'arrivée de Barack Obama à La Havane, il n'a pas été accueilli par Raúl Castro, mais plutôt par une autre délégation. Est-ce qu'il y a une signification à cela, à votre avis?
Je ne connais pas quel est le protocole ni ce qui avait été convenu à l'avance. C'est clair que les deux parties s'étaient entendues, hein, et comme le disait Jean-Jacques, c'est tout un processus, hein, mmh, à différentes étapes. Donc, je ne suis pas en capacité d'analyser. Par contre, ce qui me semble important de rappeler, c'est que l'ouverture vers les États-Unis peut être, en tout cas, l'ouverture des relations peut être assez importante. Déjà, la fin de l'embargo, souvent on a l'impression que c'est une question économique. C'est aussi une question très importante, y compris pour les habitants de l'île, notamment en termes d'accès aux médicaments, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'accès à de très nombreux traitements. Un des autres aspects, et qui est en relation directe avec l'évolution des libertés, c'est l'accès à Internet. Aujourd'hui, seuls 5% des Cubains peuvent avoir Internet de chez eux, 25% des ordinateurs, et en plus, le réseau est extrêmement mauvais, il y a beaucoup de contrôles, beaucoup de limitations. Il faut faire également évoluer les droits, que ce soit pour l'indépendance de la justice, hein, les avocats aujourd'hui sont payés par l'État, que ce soit pour la liberté d'association, il faut qu'elle puisse ne pas avoir besoin d'être associée, dépendante de l'État, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, et cette ouverture peut être un moteur pour mener de tels changements.
Voilà, il nous reste 10 minutes, on va aller au téléphone retrouver Bill Titus. Bill, bonsoir. Bill? Ben Bill n'est pas là. Je vais me retourner vers Bakary Keïta. Allô?
Allô, oui.
Oui.
Bonjour, bonsoir.
Voilà. On vous écoute pour votre réaction, Bakary.
OK. Ah, ce geste de M. Obama est salvateur et significatif. À mon avis, le locataire de la maison blanche a reçu un pari inédit, surtout en fin de son deuxième mandat. Grandit non seulement et grandit l'Amérique tout entière et permet aux deux pays de prendre quand même de nouveaux départs solides allant de l'apaisement. Aussi, rien ne vaut quand même le bon voisinage. Et il y a une leçon que les pays africains doivent tirer quand même de cette visite de Barack Obama à Cuba. C'est-à-dire que les Africains ne doivent pas privilégier une puissance. Ils doivent coopérer avec toutes les puissances et essayer vraiment de tirer vraiment ce qui est profitable, ce qui permet de développer leur pays.
Voilà.
À mon avis, chapeau à Obama et à toute l'Amérique entière.
Merci.
La fin justifie les moyens.
Merci, Bakary. Célestin Bédigui, est-ce que vous avez, vous, l'impression que l'action d'Obama va rester dans la durée, puisque Jean-Jacques l'a dit tout à l'heure, il faut une approbation du Congrès, et que tout ce qu'Obama fait en ce moment, c'est par executive order, comme ils disent ici. Et que tout président qui peut venir après lui peut balayer cela d'un revers de la main.
Oui, je crois qu'il y a tout de même lieu de garder de rester plus prudent, hein, et de ne pas trop positiver.
Vous savez bien que la nature de la relation entre Obama et ce congrès républicain a une connotation qui, quelquefois, frise l'indécence. C'est-à-dire, il y a des gens qui semblent avoir fait le pari de voir Obama se faire mettre sur la tête un bonnet d'âne de quelqu'un qui a échoué. Et aujourd'hui, ce qu'il réussit et ce qu'il a fait à Cuba étant une réussite, il y a des républicains qui feraient tout pour que l'histoire ne le retienne pas. Et c'est tout à fait dommage. Tout à fait dommage parce que par rapport à nous autres Africains, je l'ai dit tout à l'heure, cette décrispation ouvre de nouveaux champs de coopération parce que l'expérience cubaine peut trouver des champs de reproduction en Afrique. Les domaines d'expérience réussie de Cuba, j'entends bien. Ça peut ouvrir des domaines de coopération absolument inédits pour l'Afrique et tout le monde. Nous autres, les Africains, nous y gagnerions.
Voilà. On va repartir au téléphone. Bill est là. Bill, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, on vous écoute pour votre réaction.
Bon, ma réaction était la suite du... Et par rapport à ce que le président Obama... pas faire au Cuba. Et moi, je ne vois pas la relation qui est ça à avoir avec l'Afrique. Et si les États-Unis coopèrent avec le Cuba, c'est sans pour des relations diplomatiques. Et là, je ne vois pas qu'est-ce que l'Afrique va foutre là-bas. Et en plus, si nous, les Africains, nous sommes un pays à côté du fait que le Cuba a comme relation avec les États-Unis, si les États-Unis venaient coopérer avec les pays de l'Afrique et on serait content parce que Obama était un Africain et il pourrait nous faire un peu du plaisir. Oh, y aller.
Alors, donc, pour répondre à votre inquiétude, on a cette réaction de Loïc Mukongele qui dit « L'Afrique n'a pas d'intérêt, certes, mais l'Afrique y trouvera son bénéfice seulement au niveau de relations bilatérales. » Donc, il y a à espérer que les certains pays africains peuvent engager des relations avec Cuba. On est à 5 minutes de la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table. Geneviève, je m'adresse à vous. Est-ce qu'au niveau des droits de l'homme, vous qui travaillez pour Amnesty International, quelle est la situation sur le terrain? Est-ce qu'il y a une évolution ou elle est catastrophique comme certains veulent le faire croire?
On ne voit pas d'évolution, hein, comme je l'ai déjà exprimé. C'est vrai que ce soit au niveau des droits civils et politiques, il n'y a pas eu d'évolution ces dernières années. Et c'est vrai qu'en termes de droits économiques, sociaux et culturels, on vante toujours Cuba, mais il faut se rappeler que les droits sont indivisibles et que tout individu a besoin de l'ensemble pour jouir de sa dignité, de l'ensemble des droits. Et pour finir, je dirais que l'ouverture aujourd'hui en accueillant Obama, eh bien, ce serait aussi que Cuba aujourd'hui ouvre ses portes aux organisations comme Amnesty International, comme aux rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour qu'ils puissent venir voir ce qui se passe exactement en termes de droits humains. Oh. Et puisqu'on ne peut pas y aller depuis 1990. D'accord. Et ça, c'est vraiment gênant.
Voilà. Donc, Jean-Jacques, votre mot de la fin?
Moi, j'en aurais deux. Je dirais qu'il ne faut pas se tromper de continent. Cette visite s'inscrit dans un cadre qui est un cadre d'abord qui est latino-américain. Rétablissement des relations entre les États-Unis et Cuba va ouvrir aux États-Unis une voie qui leur était quand même simplement entrebâillée en direction de l'Amérique latine. Il y avait eu un certain nombre d'évolutions ces dernières années. Les latino-américains s'organisaient sans les États-Unis en raison de la perpétuation de l'embargo. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a une deuxième partie après Cuba, le président s'est rendu en Argentine et que c'est quelque part, ça a été facilité par ce rétablissement des relations avec Cuba. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est qui est très particulier
en quelques secondes.
À Cuba, c'est l'ordre des priorités. Pour les Cubains, la relation avec les États-Unis, ce sont plus de visiteurs, plus de dollars, plus d'opportunités de travail. C'est avant tout ça
dans la hiérarchie, lorsqu'on on va à Cuba, quand on discute avec les Cubains, plus que des libertés,
voilà.
Dans le sens dans lequel on l'entend aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, ce qu'ils veulent, c'est du mieux vivre.
D'accord.
C'est ce qu'ont compris les autorités cubaines en essayant d'imaginer un système qu'ils préciseront probablement à l'occasion du congrès du Parti communiste au mois d'avril à la chinoise.
C'est compris. En quelques secondes, vraiment en quelques secondes, Célestin Bédigui, votre mot de la fin.
Oui, je pense que cette décrypsation, je reviens toujours dessus, va permettre de redensifier ou de densifier la relation entre l'Afrique et Cuba, dans la mesure où la composante noire de la population cubaine est très importante. Elle tient d'ailleurs, on peut dire, une place assez importante sur la scène politique cubaine.
Oui.
Où est ce vice-président qui est tout noir comme je le suis. Ouais. Et je crois que cela pourra renforcer, je parle bien de la visibilité accrue de Cuba désormais, un rapprochement entre le continent noir et Cuba. Et ce serait bien pour tout le monde.
D'accord. Alors, Loïc est au téléphone, vraiment en 10 secondes, votre réaction. Loïc,
oui,
bonsoir.
Allô, je vous écoute.
Oui, allez-y. En 10 secondes, votre réaction.
Oui, allô.
Oui.
Oui, je pense que cette nuit profite plus aux Cubains et qu'aux Africains directement.
Voilà.
Parce que, tout simplement, cette ouverture de...
Désolé, Loïc.
Des embargos économiques pourra permettre aux investisseurs cubains de venir en Afrique.
Voilà, c'est entendu. C'est entendu, Loïc. Merci. Les Rolling Stones, le légendaire groupe de rock, sont arrivés à la vanne hier. Ils offrent un concert gratuit ce soir. Le premier en sol cubain. Le concert a lieu quelques jours après donc la visite historique de Barack Obama. On va donc terminer cette émission avec un de leurs titres fétiches, I Can't Get No Satisfaction. Donc, on écoute. Nous sommes arrivés au terme de cette émission de l'Amérique et vous. Merci à tous nos invités. John Lyndon était à la présentation avec le soutien et la collaboration de toute la rédaction. Merci à Saloua, merci à Jean-Jacques pour leur soutien également. Joselle Morissin était à la production assistée de Fred. À la console, Keith Holm. Nous vous disons merci d'avoir suivi et resté fidèle au programme de VO Afrique.